Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Fat Corner 93.9, bonsoir Samuel, ça va ?
Bonsoir, ça va, ça va.
Léo, t'es en train de manger, tu te diras bonjour.
Il est coupé de privé de micro pour l'instant.
Vous écoutez donc Fat Corner 93.9, émission spéciale ce soir de 2 heures. En fait, l'emploi du temps est un petit peu chamboulé parce que vous dire, on a un invité exceptionnel dont on va parler tout de suite. Il s'agit de Bernard Fèvre, alias
Black Devil.
Alias Black Devil Disco Club.
Ouais, Disco
comme
Club.
C'est signé sur...
Faut dire Disco Club, autrement. Il y a confusion.
Sur le label Reflex. En fait, en 2004, le label Reflex a sorti un disque qui était une sorte de disque culte, on peut dire, voire cultissime, dans les milieux, en fait, qui marchait assez fort avec le revival Italo-Disco. C'est donc ce disque Black Devil, titre Disco Club, dont vous allez nous parler tout au long de cette émission. Mais pour commencer, on va passer un morceau de Black Devil. Donc ça, c'est extrait justement du EP dont je parle.
Voilà, qui date de 78 et qui a été réédité donc en 2004 par Reflex. Le titre, c'est Follow Me. Puis on revient après avec une petite interview.
Voilà. Ça nous rajeunit pas.
93.9 Campus Paris, Fat Corner, jusqu'à 23h. Aujourd'hui, il y a Out One Mix Reggae Early Digital de 23h à minuit. Loupez pas ça.
Out your back door. do, you do, you do, I do. We do, you do, you do, I do. We do, we do, you do, you do, I do. We do, we do, you do, you do, I do. We do, we do, you do, you do, I do.
Campus Paris 93.9, on vient d'écouter Follow Me de Black Devil Disco Club, alias Bernard Fèvre, avec qui nous sommes ce soir. On est très heureux de vous recevoir, Bernard.
Moi, je suis très content d'être là.
La célébrité est de plus en plus importante pour Black Devil Disco Club depuis maintenant, ça va faire presque 3 ans en fait.
Ah ouais, je passe plus les murs, les portes maintenant.
C'est très, très compliqué pour vous d'aller faire vos courses, etc. C'est une histoire quand même amusante parce que...
Ah oui, super amusante.
Donc, pour la faire, on va dire courte, dans les années, vous avez toujours été musicien. Vous avez, vous le disiez tout à l'heure, fait du music hall pendant une dizaine d'années. Stoppé au bout d'un moment pour vous lancer dans autre chose. Et en 78, vous en êtes venu, vous avez eu l'idée donc de faire un album disco.
Voilà.
C'est à peu près ça. Et ce disque, en fait, avait un son assez précurseur. Vous avez essayé de faire une forme de disco qui...
On voulait sortir de... Moi, j'aime bien faire ce que je n'ai jamais entendu, donc c'est le jeu.
Oui.
Et apparemment... On l'a entendu pendant longtemps.
Ça a été un échec assez cuisant à l'époque.
Ben oui, parce que moi j'avais eu pas mal d'espoir dans ce truc-là. Parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était ailleurs. Mais je pense qu'à l'époque on n'avait pas besoin d'ailleurs, quoi. Besoin du présent.
Et il était sorti que en France ou il est sorti aussi aux États-Unis?
Moi je sais pas. D'après ce que je lis sur Internet, il y a une copie piratée en Italie, un truc comme ça. Mais
Le bootleg italien expliquerait peut-être justement le goût.
A continué à tourner, parce que j'ai lu aussi sur. Parce que évidemment, je me suis plongé sur le net pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait.
Comprendre le phénomène, ouais.
C'était assez étrange, quoi. On est toujours dans l'étrange, de toute façon, mais l'étrange amène l'étrange et. Il n'y a pas de mystère. En plus, je m'aperçois parce que j'ai fait des sets là, avec mon public.
Ouais.
Les gens ressemblent à ce que je suis.
C'est-à-dire,
ouais, il y a pas.
Comme on est à la radio, c'est difficile.
Ils sont pas si étranges que ça. Ouais. Vous voyez, comme moi, je suis pas si étrange que ça.
Si.
Et quelque part, dans la tête, ils ont certainement des trucs qui sont pas comme les autres, quoi. Donc, mais ça, c'est la normalité, mais. Parce que souvent, les gens me disent, ouais.
Les gens qui aiment l'italo disco, qui, à mon avis, comme vous dites, sont un peu son public, votre public sont un peu, effectivement, des sortes de normopathes un petit peu étranges, je pense, des gens.
Qui se ressemblent, s'assemblent.
mais avec 28 ans de retard.
Ouais,
mais.
Enfin, de décalage, pas de retard, mais de décalage, en tout cas.
Enfin, c'est 28 ans de retard pour beaucoup de gens, mais pas pour moi.
Oui.
Oui, ça évidemment.
Ouais, ce que je veux dire. Moi, j'en ai connu des gens qui avaient 28 ans de retard. Depuis l'âge de 16 ans, j'en rencontre des gens qui ont 28 ans de retard.
Et à l'époque, vous étiez influencé par la disco, par exemple Moroder, ou le son de Moroder pour les basses, par exemple.
C'était
une influence consciente.
Évidemment, je l'ai entendu, Moroder. Il avait fait des trucs déjà. Le système de bassline, c'était ça, quoi. C'était ce qu'il fallait faire. Par contre, au-dessus, c'était plus du tout la même chose, quoi. C'était ça, mon jeu. C'était d'aller là où personne n'avait été. Et puis, d'utiliser le synthétiseur totalement.
Ouais.
Ça, c'était aussi un truc. Parce que, par exemple, en France, le synthétiseur, ça a toujours été considéré comme un gadget, surtout à l'époque.
Mm-hmm.
On l'entend dans des disques. Alors, ça fait coin-coin, de temps en temps. Ça fait... mais on sait pas trop. Moi, ce qui m'intéressait, c'était faire tout l'orchestre comme un orchestre normal, mais de la basse jusqu'aux altis, si on connaît un peu la musique,
avec le synthétiseur,
on utilisait les synthés.
Mmh.
Et ils ont suffisamment de quoi aller dans les fréquences et même là où on n'a jamais été. Donc c'était ça qui était intéressant.
C'était le projet, quoi.
Bah oui, parce que je l'ai toujours considéré ça comme un nouvel instrument. C'était pour nous l'instrument de l'an, enfin pour moi l'instrument de l'an 2000. Mm, mm. Ouais, il est devenu un petit peu quand même. Mais l'an, ouais. devenu, l'an 2000 n'est pas devenu ce qu'on rêvait.
J'imagine, quelque chose imaginé. Ouais.
Mais vous étiez plutôt branché musique noire en fait.
Ouais, moi j'aimais bien la soul music. J'avais toujours des copains. Black, mais j'aime pas le black noir, ils étaient des mecs noirs sympas, qui m'ont fait connaître Tamla Motown, Stax et toute la musique qui faisait bouger, qui me faisait bien bouger au niveau des hanches.
Ouais, ouais. Hein. Qu'ils soient pas plus.
Ouais, ouais. Ouais.
On bouge la tête simplement, comme sur le rock. Ouais.
Et l'objectif était aussi de faire un disque dansant avec Black Devil? Moi, quand je joue en général,
je danse un peu.
Ouais.
Donc, je pensais que ça. Si j'arrivais à bouger dessus, je serais pas le seul, quoi.
Ouais. Ok. Parfait. Parfait.
Et qu'est-ce que je veux dire?
Moi, je voudrais juste poser une question par rapport à votre acolyte, a priori, qui est cité sur le disque, puisqu'il y a deux noms qui sont crédités le disque qui a été réédité, donc sous le titre de Black.
Jackie Giordano.
Voilà, exactement. Parce qu'aujourd'hui, on vous reçoit tout seul, donc est-ce que c'est... Enfin, c'est
explication.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Jackie Giordano, c'est un personnage étrange, un bon musicien.
Oui.
Un mec très marrant. Enfin, c'est-à-dire qu'il avait un humour pied noir qui correspondait parfaitement avec mon humour de banlieue, donc on s'est payé des éclats rires d'enfer.
Ouais.
Mais le problème, c'est qu'il est... Je pense qu'il était très passionné par l'argent. Et moi, je l'ai perdu de vue en 79. Et depuis, je ne l'ai jamais revu.
Ah, vous l'avez jamais revu? Non. D'accord, ok.
Par contre, j'ai entendu à la télé l'autre fois qu'il y avait un mec qui était poursuivi pour des méfaits auprès de la...
Ouais, retraite.
Comment ça s'appelle, les caisses de retraite, là. Et j'ai l'impression que c'est le même bonhomme.
D'accord.
Bah, c'est gangsta disco, quoi. C'est...
Ouais.
Il s'est reconverti, quoi. Il a abandonné le...
Mais c'est un type qui était producteur, qui était dans la musique. Enfin, je me suis un peu renseigné, il a produit des trucs de rock progressif ou de jazz.
Moi, quand je l'ai connu, je l'ai connu parce que j'avais fait une chanson pour Alice Sapritch.
Ah.
Dans l'album qu'elle a fait.
Ah, carrément.
Et je lui avais donné des cours de chant à quelqu'un qui ignore totalement le chant, c'est une galère. Ah, enfin, j'avais réussi à lui faire mettre les mots sur la musique. J'ai même été payé pour ça, d'ailleurs. Mais j'ai vraiment été prof de chant, quoi. Pour cette dame qui était charmante, qui était... Encore une dame qui n'aime pas les gens qui avaient 28 ans de retard.
Ah ouais?
Ah ouais, mais elle détestait les gens de son âge. Ouais, parce que le problème, c'est qu'à partir d'un certain moment, les gens arrêtent de rêver. Et ça, c'est très embêtant d'être avec des gens qui rêvent plus, quoi. Voilà. Moi, nous, on aime bien les gens qui rêvent.
Il y a d'autres célébrités auxquelles vous avez donné des cours de chant?
Non.
Nana Mouskouri.
Non, elle chantait déjà suffisamment. Bon. Non, mais Alice Sapritch, c'était un cas. C'était une comédienne. C'était pas du tout une chanteuse. Donc, je lui ai fait un twist à l'époque.
Ah. Ouais. À l'époque, donc, genre en 60.
Je suppose, on dit qu'il a été réédité, là, apparemment. J'ai vu ça en 2002, je sais pas. C'est un album. C'était marrant. Il y avait un type qui le passait à la radio, c'était son grand copain, aujourd'hui disparu. Ah, j'ai plus son nom en tête. Le Luron.
Ah,
ouais.
D'accord. Il faisait de la radio, Le Luron.
Mais ouais, il faisait des émissions. Alors, de temps en temps, il passait. Une... Ah, j'étais content.
Il passait
mon titre, alors. J'étais content.
Ça s'aime, etc.
Non, j'ai fait une chanson pour Rick Azaray.
Ah ouais.
Ouais, tout à fait un autre genre.
Et vous nous le
mais j'ai
pas,
fait une chanson mais... très enfin une musique très pas du tout Casa de Choc ni Mon cul sur la commode, c'était vraiment un truc sérieux, un peu très israélite et Delanoë dessus avait fait un texte qui parlait un peu des camps de la mort, des choses comme ça. Donc c'était pas du tout, alors ça a pas du tout fonctionné.
Ouais, ça devait pas être très drôle.
Ah oui, parce que c'était une belle histoire, quoi.
Et vous ne les avez pas amenés, ces merveilleuses pépites. Vous les avez encore?
Non, parce que je les ai pas.
Ah, vous les avez pas?
Non.
Oh, c'est triste.
Mais j'ai pas grand chose.
Vous avez pas.
D'ailleurs, quand je déménage, j'oublie pas mal de trucs.
Mais j'espère que vous avez pas déménagé souvent.
Si, je vais déménager prochainement.
Ah, ça va être difficile.
Parce que là où j'habite, ça va être démoli, alors.
Bon.
Bon, attention, pas, les informateurs sont au courant. Bernard Febvre déménage bientôt. Surveillez. On va peut-être passer à un autre extrait, un autre titre, avant de revenir aux aventures de Bernard Febvre et d'Alice Sapritch. C'est le track qui s'appelle
Timing, Forget the Timing.
Exact. Qui est en fait le morceau, effectivement, un peu le tube.
Ouais, c'est celui avec lequel je commence quand on fait des petits sets là en ce moment dans les clubs là.
Ouais.
Et c'est sympa, ça démarre bien avec celui-là.
Et ça a été remixé notamment par Carrier District en fait, enfin le pseudo disco de Luc Vibert
ou Luc Vibert.
Allez, on a eu un petit débat entre Vibert ou Vibert. Nous y reviendrons tout de suite. Timing, Forget the Timing, Black Devil Disco Club.
You
Campus Paris 93.9, on est toujours avec Bernard Fèvre, alias Black Devil Disco Club. On revient un petit peu sur sur le contexte dans lequel s'est fait ce disque et ce qui... Enfin, comment c'était en fait les clubs à l'époque là, comment on avait accès aux musiques, disons, qui n'étaient pas forcément diffusées sur les grosses radios et sur les télés?
Parce qu'il fallait aller dans les clubs, des fois en banlieue. Des fois, c'était assez intéressant. Bon, proche banlieue de Paris, il y avait les noms, je me souviens plus. Il y avait des clubs, justement, où il y avait des noirs qui amenaient leur éventail musical. Pardon. Au niveau des discothèques. Enfin, il y avait des DJ qui amenaient des trucs, quoi. Donc, on découvrait des choses intéressantes. Et puis, dans les clubs à Paris, ça dépendait des jours et même des horaires, parce que des fois quand on est jeune, il y avait des trucs en matinée
matinée,
ouais, des après-midi boîte de nuit matinée.
Matinée, mais genre à 10h du matin?
Non, enfin, on dit matinée, c'est l'après-midi. Ouais, quand tu fais matinée au théâtre, c'est tu joues pas le matin.
Ok, pardon.
Donc voilà. Donc selon les horaires, il y avait des gens, les DJ qui venaient, qui n'étaient pas des stars comme aujourd'hui, mais qui venaient avec leur disque préféré, quoi.
Ouais, ouais.
Et donc, par exemple, si tu allais dans certaines boîtes le vendredi soir, c'était pas la même musique que le samedi soir.
Ouais.
Mm-hmm. Hein? Samedi soir, bon, c'est plus c'est pour plus le ce qu'on appelle le grand public.
Ouais,
et puis, dans la semaine, ça pouvait être très très différent.
Ok.
Un peu.
Et les clubs, c'était un univers que vous fréquentiez beaucoup?
Non, mais
j'aimais
bien danser, ouais.
Ouais, ouais.
Bon, il y avait... le Rock'n'Roll Circus, qu'est-ce que
Le
Bus Palladium. Enfin, les stars de... Il y en avait d'autres.
Mais c'était...
Il y a eu le Palace par la suite.
Mais c'était des clubs, parce qu'à Paris, les grands clubs dont on parle, sinon vous citez le Palace ou ensuite...
Mais le Palace était beaucoup
c'était
plus...
C'était dans les années 80, le Palace.
Grand public, je trouve, au niveau musique.
Ouais, voilà, mais
au niveau son.
Non, parce que le public du Palace s'en foutait un petit peu de la musique. C'est un peu ça. C'était quand même une boîte une boîte sociale plus qu'une boîte pour mélomanes, si vous voulez.
Ouais.
Et là, les clubs dont vous parlez, eux, étaient plutôt justement au contraire vers la musique. Les gens venaient parce qu'ils savaient que le DJ était bon.
C'était des clubs
bon,
qui retombaient. Par exemple, par la suite, j'étais dans un club qui s'appelait la Main Bleue. C'était vers la banlieue, je sais plus quelle. Paris. C'était une boîte, là, c'était encore tout à fait un autre esprit, parce que c'était beaucoup les mecs de la banlieue qui venaient à cet endroit-là. Il y avait souvent des bagarres, par exemple. Bon, à Paris, c'était assez calme, en général.
Ouais, ouais.
D'accord.
Il n'y avait pas de haine autour de la musique. Après, il y en a eu, et puis j'avais des copains qui faisaient des galas. Il y a eu un peu de haine autour de la musique, un peu comme dans le football, et ça s'est déplacé justement vers le sport.
Ah oui.
Ouais. C'est-à-dire que c'est rare maintenant dans un concert. Enfin, il y en a peu de concerts, mais c'est vrai que c'est rare des concerts où il y a vraiment
où il y a un groupe qui va taper
un truc merdeux.
Les concerts de rap, quoi.
Oui, d'une certaine manière.
C'est toujours pareil, tout dépend des gens qui y viennent, quoi.
Oui, bien sûr. Et donc le disque en lui-même, vous l'avez donc fait avec, vous l'avez fait. Jackie Giordano en fait co-signe, mais a-t-il vraiment participé?
Si, il a organisé les séances.
Il a organisé les séances. Ouais. Il a joué son rôle de producteur.
Ouais, voilà.
Après, on part.
Grâce à lui, ce disque a existé.
Voilà. Il a loué les services d'un percussionniste, vous disiez, algérien.
Ouais. Algérien, marocain, je me souviens plus, mais il s'appelait Sidney. Je pense qu'il s'appelait Sidney. Je sais pas son nom de famille, ça c'est impossible. Je crois que je l'ai jamais appelé par son nom de famille. Puis je l'ai vu que pour ce set là. Hein.
D'accord.
Bah, oui.
On n'a pas eu d'autres aventures ensemble.
C'était vraiment un projet. Vous l'avez fait en combien de temps en fait?
Je me souviens plus. On était dans un studio de banlieue et on travaillait la nuit. Parce que je pense qu'il a dû récupérer des séances parce que
ça devait être moins cher.
Et donc on a dû faire ça en une semaine, je pense.
D'accord.
Mais on a bossé beaucoup. Hein. Ouais. Ouais, parce que tout est fait à la main. Hein.
Oui, c'est
pas,
ça en fait.
Il n'y a pas de
boîte à rythme.
Il n'y a pas de technologie à répétition, sauf le synthé qu'il fallait caler sur la boucle de drums avec le bouton repeat. Et il fallait que ça tienne le plus longtemps possible avant un décalage, donc il fallait le régler au curseur. Et après, tous les trucs, ils ont été joués tout le long, quoi. Il n'y a pas de, on n'a pas rebouclé des machins, c'était pas possible.
Enfin, la batterie quand même était bouclée, vous me dites.
La batterie, oui. La batterie, la séquence basse, parce que, sauf qu'il fallait la reprendre au bout de, des fois 8 mesures, des fois au bout de 16 mesures, des fois au bout de 32 mesures, parce qu'elle se décalait trop par rapport aux drums.
Ouais.
Mais tout le reste, toutes les interventions synthé ont été jouées live, tout.
Ouais. Ça se sent en fait, c'est vraiment une musique comme
ah, ça bouge un peu d'ailleurs.
Sentez de non, c'est une musique qui est vachement animée quoi.
Mais là, je continue à travailler de la même façon, sauf que je reséquence, je recale avec le séquenceur.
Ouais, mais c'est toujours dans un esprit.
Mais je le joue.
Ouais.
Je le joue avant. D'ailleurs, il y a Morgan Guest qui m'a demandé l'autre fois parce qu'il avait mal compris. Il m'a demandé si j'avais comment j'avais fait justement pour caler le bassline sur le drums. Et il avait pensé que je, par exemple, de la basse, il avait pensé que j'avais joué toutes les notes. Alors, non, je vais expliquer ce que je viens de vous expliquer, que j'ai, c'est le repeat du machin qui tenait sur un certain timing, et après, on dropait, on reprenait, quoi.
Et à l'époque, vous avez pu vous produire en club?
Ah non, absolument pas. Non, ce disque, hein, je veux dire,
disque
moi,
a pas
une
été
fois
joué.
Qu'il a été terminé, Giordano, il l'a dealé je ne sais où.
Ouais.
Sur un RCA.
Ouais.
Je le sais. Enfin, je le sais maintenant.
Ah, mais
et j'en ai plus jamais entendu parler.
Mais à l'époque, vous saviez même pas chez qui c'était sorti, c'est ça?
Si,
non.
Ça.
Ah, bon. Non, parce que moi, je suis un.
Vous l'aviez quand même sorti le disque. Vous en avez
oui, non, je sais. Il m'a dit, ouais. J'ai signé chez RCA.
D'accord.
Point.
Ok.
Voilà.
Et vous n'avez pas eu de chiffres, vous n'avez pas su.
J'ai attendu des retombées.
Ouais. Vous avez attendu 28 ans.
J'ai pleuré pendant 28 ans. Ça fait que j'ai un beau teint maintenant.
Et après vous suiviez un peu quand même la scène disco, les débuts de l'Italo disco. Vous êtes pas dit tiens c'est bizarre ce genre de truc, ça a l'air un peu en entendant.
J'étais un peu largué moi.
Ouais.
Ah, non parce que par la suite moi j'ai fait que de la musique pour bouffer hein.
Ouais.
C'est-à-dire... Jamais pour le pied hein. Je me suis arrêté à cette époque-là pour le pied.
C'est-à-dire
quand. Et là en ce moment je reprends mon pied.
Vous avez sorti cet album puis étant donné qu'il n'y a pas eu de suite.
Après j'ai fait de l'alimentaire.
C'est-à-dire des musiques publicitaires,
ouais.
Ok.
Des petits courts-métrages, j'ai fait
des tas de petites choses.
J'ai travaillé en collaboration pendant 10 ans avec la régie d'Europe 1.
Ouais.
Comme nègre.
Ouais.
Mais.
Pour faire les montages des jingles, des choses comme ça.
Ouais, j'ai fait. Mon premier challenge, ça a été de secouer l'antenne d'Europe 1 pour le lancement des petites bouteilles rondes d'Orangina dans les grandes surfaces. Alors comme à mon avis le garçon qui me faisait travailler, il savait pas quoi faire, il m'a dit voilà, j'ai un truc pour toi. Ah mais c'est gentil. Tu vois, tu prends les jingles, t'as les machins, tu te démerdes, t'as une semaine pour secouer pour réaliser le soucouage de l'antenne de repas 24 heures.
Ah parce qu'elle est secouée comme la bouteille, l'antenne est secouée comme la bouteille d'Orangina, d'accord, j'avais pas compris. Okay.
C'était la pub. Alors à l'époque, j'avais pas encore d'ordinateur. J'étais en train d'apprendre à m'en servir, je crois. C'était un Atari. Et donc, j'avais des magnétos à bandes, des ciseaux, du scotch, machin.
Eh ben, à l'ancienne, ouais.
Et puis, aussi au studio, je suis arrivé avec des bouts de trucs, parce que j'ai fait des jingles personnels aussi, quand même. J'arrivais avec un micro-cassette à la main, sur lequel j'avais noté des petits thèmes, et on les a réalisés avec l'ingénieur du son sur place. Alors là, j'ai utilisé des machines.
Ok.
D'accord.
Et ça a été un franc succès. C'était bien payé en plus.
Bon, bah tant mieux.
C'était en quelle année ça? Milieu 80.
Les années 80.
Ouais. Et vous avez joué avec d'autres musiciens, des choses comme ça? Vous avez
très peu avec d'autres musiciens.
Enfin, pour des chanteurs vous avez pas pigé, cachetonné, requin de studio un petit peu?
Non, c'est pas mon truc. Moi, je suis pas un requin de toute façon, ni de studio, ni de.
Requin, pas le
plus. Ni sur la plage, ni.
Briscard.
Oui, non, mais je comprends.
Briscard de studio.
Non. Mais je sais pas si j'ai un niveau. Comment. Vous savez, pour être musicien de studio, faut être très très malléable,
ouais.
Faut répondre à l'exigence des gens, et puis en plus c'est un milieu un peu bizarre où les gens se retrouvent en groupe, à s'aider, à se renvoyer des ascenseurs et tout. Je sais pas faire ça.
Oui, donc vraiment cet album qui aujourd'hui est un, enfin c'est le point départ d'un renouveau. À l'époque, ça a été la fin d'une certaine aventure musicale.
Oui, ce que je dis maintenant, là, je suis en train de reprendre toutes ces vieilles choses, de les continuer. Je reprends mon fil coupé.
Ouais.
Après un break de 28 ans. Et les disques, parce que vous êtes connu pour les spécialistes pour avoir aussi fait des disques d'illustration musicale. Pour un label.
C'est ça que je suis en train de retravailler en ce moment.
Ouais,
parce que comme il y a une demande apparemment, je pense que Low Recording a l'intention de rééditer au moins l'album qui s'appelle The Strange World, mais moi je veux pas le rééditer s'il n'y a pas
quelques petites nouveautés. New Strange
World. Ouais, ouais.
Okay. Ah d'accord. Okay.
Pour amener. Parce que si ma musique, elle existe et qu'elle plaît à cette époque-là, je vois pas pourquoi elle existerait pas et qu'elle plairait pas avec, puisque j'ai toujours la même tête. J'ai toujours les mêmes choses dans la tête, donc ça devrait pouvoir se faire.
Et vous voulez refaire un nouvel album ou plutôt reprendre certains trucs de l'ancien?
Mélanger.
Mélanger.
Ouais.
Ok. Parce que oui, c'est sorti sur le Recordings, en fait.
Il y a même peut-être un titre, là, dernièrement, j'en ai fait un qui est le doublon d'un de l'époque.
D'accord. Oui.
Mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc il va s'appeler le même titre que le premier, mais numéro 2.
Okay.
Ou bis, ou. Ça, c'est amusant, quoi.
Je pense que vous trouverez une combine, ouais.
Ouais.
Ce que je vous propose, c'est justement d'écouter donc ce qui est paru il y a quelques mois chez Low Recording. Donc cette fois-ci, c'est sous le nom de Black Devil Disco Club en entier, et l'album s'appelle 28 After. Donc on l'aura compris, c'est 28 ans après.
C'est moi qui ai trouvé le titre.
Moi j'aime beaucoup le titre Constantly No Respect, pardon. Excusez-moi pour le.
Ouais, c'est un instrumental.
Oui.
Tu n'aimes pas ma voix, c'est pour ça.
On en parlera.
Moi, j'aime vraiment beaucoup votre voix. Je dis ça sans...
Merci, j'en ai un sur deux. J'ai 50.
Et puis on en parlera peut-être de la redécouverte, etc. après. Non,
bien sûr. Comme
vous voulez.
Ça marche, j'accepte ta proposition, Samuel. 93.9, Fat Corner,
merci.
Bernard Febvre. Campus Paris 93.9, nous sommes toujours avec Bernard Fèvre, c'est Fat Corner, jusqu'à 23h ce soir avec Out One, je le répète, en mix reggae early digital de 23 à minuit. Bien, Bernard, que dire
Parlons de la redécouverte.
Parlons peut-être. De la redécouverte. Donc après, c'est bon, enfin bref, c'est presque trois décennies où vous avez donc. Vous avez un petit peu cachetonné, on va dire. Enfin, fait
oui,
l'alimentaire,
j'ai cachetonné,
comme
oui.
vous dites. Réflexe d'abord dans un premier temps. Redécouvre, enfin en tout cas ressort.
Me demandez pas comment ils l'ont trouvé.
Paraît-il, c'est une brocante, quoi, enfin une car boot sale, enfin
c'est ce qui est dit en général.
Et alors, comment ça se passe? Comment ils vous ont retrouvé? Un jour, vous avez.
Mais moi, personnellement, ils m'ont pas retrouvé, moi. Je les ai jamais rencontrés.
Ah bon?
Ah ouais?
Hein?
Alors, comment ça s'est passé?
Ils ont retrouvé l'éditeur.
Ouais.
Qui lui a failli pas me retrouver non plus. Ouais. C'est moi qui l'ai cherché.
Il y avait marqué votre nom sur.
Moi, j'ai réagi parce que les Chemical Brothers avaient pris le sample.
Ah ouais.
Oui. Earth Message. Earth...
Oui.
Et j'ai touché un petit peu de droit à l'assassin de ce truc-là.
Ouais.
J'ai dit, mais d'où ça vient, ça? Alors j'ai fouillé sur Internet. Et donc je me suis aperçu que c'était ces gens-là qui faisaient travailler cette musique, quoi.
Ouais.
Ce morceau de musique. Ce bout de musique.
Donc vous avez retrouvé l'éditeur comme
et
ça.
Et j'ai cherché l'éditeur.
Ouais.
Je me souvenais à peu près qu'il y avait un éditeur qui avait racheté le catalogue de Giordano parce que tout ça c'était catalogué chez.
Ouais.
Chez Giordano. Et il me dit, ah bah oui, effectivement, hein. Ah bah j'ai dit, bah, ouais, c'est gentil, mais je vais pas vous en vouloir parce que moi je suis content qu'il y ait un truc qui marche, mais
ça,
enfin voilà quoi.
C'était en quelle année
Chemical Brothers?
C'était
99.
Ouais.
Oui, c'est
donc entre 99 et 2004, je n'étais absolument au courant de rien.
Ok. Et après, ça s'est passé.
C'est pour ça que j'aime bien le métier français. Et par la suite, il m'a dit, bon, on se rappelle. Et je le rappelle une semaine après. Et là, il me dit, ben tiens, il y a un label anglais qui sort ton album de Black Devil Disco Club.
Ah ouais.
Il me dit, ben tiens, c'est bien. Voilà.
Et
je n'ai aucune vue sur les contrats, ni quoi que ce soit.
Ah ouais.
J'ai beau lui demander qu'il me les envoie. Bon, apparemment, pour l'instant, il a l'air d'être correct.
Ouais.
Mais moi, ça m'embête, quoi.
Oui, donc, ça s'est passé sans
c'est
vous,
effectivement
quoi.
Effectivement, un petit peu gênant de pouvoir voir. Ouais.
Voilà. Donc, je me suis dit, à partir de là,
Et vous n'avez pas contacté les gens de chez Reflex? Ils n'ont pas pris après?
Si, je les ai eu. On s'est envoyé
par
deux,
email,
trois mails.
Ouais.
Mm-hmm. C'est tout.
Ouais.
J'ai reçu une part de royalty, mais je ne sais pas à combien elle se base,
ouais,
puisque
ouais.
Je n'ai pas les contrats de l'éditeur français. Et là, je demande à mes amis anglais maintenant, puisque j'en ai en Angleterre des amis,
oui, ça, j'imagine,
de rechercher tout ce qui se passe autour de tout ça.
Ouais.
Et comme je me suis dit, bah c'est intéressant parce que comme il se passe un truc, moi j'ai encore des traces dans ma tête et des traces sur ces mini cassettes,
ouais,
de chute que j'avais gardées de l'époque.
Uh-huh. Ouais.
Bah j'ai dit, je vais m'en remettre à la tâche.
Ouais.
Et je vais faire ça.
Donc ça en 2004, quand vous avez appris.
Donc à la suite de 2004, j'ai recommencé à me penser Black Devil.
Ok.
Hein,
okay.
Et j'ai recommencé à écrire, à travailler mes sons, mes machins, essayant de me remettre dans. Mais j'ai encore les images du studio de l'époque, parce que moi c'est très important, c'est de me remettre dans les images de l'époque.
Ouais.
Et j'ai recommencé à fabriquer. Et puis au bout de 6 mois, j'avais.
Mais avec des sons de l'époque, en fait.
Oui,
c'est
oui,
ça.
Parce que j'ai encore des synthés de l'époque. Hein.
Ok.
Et mon challenge, c'était de faire vraiment aussi bien qu'à l'époque.
Ouais.
Ça a été le plus dur, parce que j'utilise quand même la technologie d'aujourd'hui.
Mm-hmm.
Mais au bout d'un moment, j'ai eu 6 titres et j'étais pas du tout content.
Ouais.
On dit laisse tomber, et ça fait que j'ai mis 2 ans pour arriver à les rendre aussi intéressants que ce premier album.
Et
là, je me suis décidé à les faire écouter.
Ouais.
Et en fin de compte, au même moment, un garçon m'a appelé au téléphone en me disant, je suis collectionneur de disques, je m'intéresse à ce que vous faites.
Ouais.
Il s'appelle Gwen Jamois.
Ouais.
Et maintenant, il est sur scène avec moi.
Ouais, il devait être ici ce
soir.
Voilà,
il devait être là, mais il a la grippe.
Ouais.
Et je lui dis, j'ai enfin six titres qui me semblent intéressants par rapport au premier album. Il dit, putain, viens chez moi, on va les écouter et tout. Mm-hmm. Il les écoute, il me regarde, il me dit, c'est la première fois que je vois un vieux, enfin, il m'a pas dit comme ça, mais que je vois un mec qui arrive à faire aussi bien que s'il a fait 30 ans avant.
Bah ouais.
Il me dit, je suis très copain avec Lauro Cording, avec John Time. Je l'appelle tout de suite, je lui envoie les MP3 par mail.
Ouais.
Et trois jours après, John était à Paris.
D'accord.
Voilà. Ah ouais. Et malgré tout, on a eu la politesse d'envoyer en même temps à Reflex,
qui n'a pas
réagi tout de suite. Donc, c'est le premier qui a été le plus vite qui a gagné.
Qui a emporté le contrat. Voilà.
Et maintenant, j'ai plus d'éditeur français.
Oui. Ça passe bien.
J'ai un éditeur ancien français, mais je ne travaillerai plus jamais avec des gens ici.
Ok.
Parce que j'ai toujours rencontré que des escrocs, moi, dans ce métier.
Effectivement, comme vous dites, c'est très très surprenant que vous ayez réussi à faire un disque qui n'est pas exactement dans la même ambiance, parce qu'il y a des sons, enfin, comme vous me le disiez tout à l'heure, vous avez un peu travaillé autrement pour le séquençage, etc. Mais qui soit de la même qualité, avec le même esprit, et qui bouge autant, effectivement, qui soit aussi...
Moi, c'était la grosse difficulté, mais je m'en suis mis des claques, hein. Tant que...
Deux ans quand même.
Comment ?
Deux ans.
J'ai des bleus plein les joues et tout. On en fait.
Bon, je vous propose peut-être d'écouter le résultat.
Le morceau s'appelle I Regret de Flower Power. On rediscutera du sens profond de ce titre juste après.
Donc l'album, c'est 28 After.
Et
c'est paru il y a quelques mois chez Low Recordings.
Et c'est un des meilleurs albums de l'an dernier, on peut le dire comme ça.
Il fait partie de nombreux best-of.
La fin de l'an dernier.
Non,
oui. 2006.
Un des meilleurs albums de 2006.
Ouais. Comme il est sorti en octobre.
93.9 Campus Paris. We'll be right back. Que vous entendez chanter hein, sur ce morceau, enfin sur la plupart des.
Et surtout les morceaux.
Ouais, ouais. Ben ouais, parce
sauf
que j'ai trouvé personne pour le faire.
Non, c'est bien, vous écrivez vos paroles directement en anglais.
Non, c'est une galère pour les paroles. Vu ma grande connaissance de l'anglais, si je vous écris, ça va être un peu long. Bon, alors je prends une idée de texte que dans ma tête, je l'écris en français. Mm-hmm. Puis après. Pour la traduire, je vais sur Google.
Ouais, mais alors, c'est pas mal. C'est
alors, je fais Google français-anglais, anglais-français, français-anglais, jusqu'au moment où ça ne veut plus rien dire, mais je garde les éléments qui voulaient dire quelque chose.
D'accord. Hein,
jusqu'au moment où je me dis, tiens, là, ça a peut-être à peu près du sens.
C'est une sorte d'épure, en fait.
Voilà. Ouais. Alors, je l'envoie à une copine qui travaille dans l'import-export, qui parle anglais, et je lui dis, si je te dis ça, tu comprends quoi ? Tu comprends quoi ? Elle me dit, je comprends ça. Je dis, ben, ça, c'est bon. Mais là, non, je comprends. C'est pas ça. On recommence.
Finalement, vous devez passer plus de temps sur les paroles que sur le reste.
Ah oui, parce que, non, c'est pas fini. Parce qu'en plus, après, pour avoir un accent à peu près potable, bien que c'est pas le but de l'opération, de toute façon, tout le monde s'en fout de ce que je raconte.
En plus, les Français ont jamais chanté avec un accent parfait.
Hein, non, mais peu importe. Mais moi, je suis un peu perfectionniste.
Et
puis, ça me fait travailler, en plus. Ça me fait plaisir. Alors, je prends, l'ordinateur sur Apple, il y a des voix, tu sais, des voix de secrétaire, l'anglaise, le petit garçon machin, et puis je leur fais dire,
ouais,
et puis après je les sample, ouais. Je les synchronise rythmiquement sur ma musique,
sur votre propre voix. C'est ça?
Non,
c'est
avant de chanter.
Avant de chanter, ouais. Ah, pour voir comment ça va rendre, c'est
et
ça?
Après je me les mets dans l'oreille et je chante avec eux.
Ok. Ah oui, en effet, c'est compliqué, ouais.
Ah oui, parce que ça met assez longtemps à faire tout ça.
Ah bah oui, j'imagine, ouais.
Et parfois, je garde un petit peu de leur voix.
Un petit peu de leur voix. Ouais.
Donc vous avez des choristes Apple.
Apple.
En
fait.
Ouais, merci Apple. Enfin, faudrait quand même qu'ils fassent un peu de progrès sur les PowerBooks, parce que ça rame drôlement.
Oh, moi ça va.
Non, mais moi pour faire la musique, je travaille Digital Performer à Apple et sur un PowerBook. Avant j'avais une armoire, ça allait, mais alors le PowerBook, avec tous les plugins et tout, il a du mal à.
Maintenant, vous travaillez
mais
avec
donc, voilà, le CPU. Le...
Maintenant, RAM. Vous travaillez avec les avec des plugins, enfin avec les outils, disons.
Je travaille avec mon logiciel de musique. J'utilise à 25% de ses possibilités.
Ouais.
Je l'utilise comme un magnétophone. Voilà. Et je me sers de quand même certains plugins au niveau du mix. Jamais au niveau de l'enregistrement.
D'accord.
Sauf certains plugins de synthé que j'ai trouvé qui sont pas mal, gratos en plus, qui font des trucs assez sympas, que je peux utiliser, mais c'est toujours après avoir fait mes... avoir rentré mes trucs que je joue sur mon clavier.
Manuellement, ouais.
Ouais. Mmh. Et en général, je trouve le son avant de l'enregistrer.
Ok.
Pas après.
Ok. Ouais, c'est... Ouais. C'est quand même une méthode de,
à l'ancienne,
de production
comme
hyper
les, comme les riz de veau, quoi.
vous allez faire un concert. Enfin, vous avez déjà, vous êtes déjà produit, vous nous le disiez tout à l'heure, à Anvers, c'est ça, en Belgique?
Ouais, Rotterdam, Anvers et Londres.
Parce que oui, on oubliait de le dire, mais le revival Italo qui a commencé au début des années 90, enfin, des années 2000, qui existait un tout petit peu dans les années 90, mais bon, qui a vraiment décollé il y a à peu près 5 ou 6 ans, c'était vachement orchestré par les mecs autour du label Clone, Bunker et,
toute en la fait, scène y avait un, de la haie.
Voilà, il y avait un site, internet qui s'appelait.
Clone a mis un des titres. Du dernier album dans une compile qui était pour le RM RFM enfin le grand truc qu'ils ont organisé à Rotterdam
le
festival électro.
D'accord.
Ah oui, ça
s'appelle Vintage Future.
Mm-hmm. Ah oui, j'en ai parlé, d'accord, je vois. Et donc vous avez, enfin, il se trouve que c'est en Hollande et en Belgique que vous avez été jouer la première fois. Et là, vous allez rejouer donc à Paris, c'est ce qui nous
à
intéresse.
À la maison,
en
Hollande, j'avais le track. Hein.
Au Bataclan, c'est bien ça?
Oui, c'est en février au Bataclan. C'est tout ce que je sais.
Bah, c'est pour les soirées, les nouvelles soirées mensuelles qu'organise Funk.
Funk Circus, il me
voilà.
semble.
Voilà, il y aura, c'est des grosses soirées, c'est le samedi soir.
Alors c'est le samedi soir.
Ouais. Le samedi soir, enfin un peu dans l'esprit des soirées.
Avec avec la maison Low Recording, moi je dis, je voulais faire ça avec d'autres personnes qui sont plus connues que moi. Et donc on espère avoir Luc Vibert et Lidstrom.
Lindström. D'accord.
J'espère que j'aurais voulu avoir Morgan Guest, mais ça, apparemment New York Paris, ça fait
cher. Ouais.
Ouais, peut-être.
C'est dommage.
Donc ce sera le 2 février, un samedi.
C'est le 2 février. Ben, vous êtes plus au courant que moi parce que
au Bataclan, c'est le 2 ou pas? Je sais
pas. On m'a pas encore certifié la date.
Black Devil Disco Club, en tout cas en live.
Bon, on en reparlera. On aura le temps d'en reparler.
On aura le temps d'en reparler.
Ce que je vous propose, c'est peut-être comme le temps tourne un petit peu malheureusement, d'écouter. D'écouter un morceau en fait qui figure
sur nos albums d'illustration musicale,
qui n'est pas signé Black Devil ni Black Devil Disco Club, mais Bernard Fèvre. Donc dans les années de les quelques c'était quand exactement d'ailleurs, c'était en 77, c'est ça, c'est avant tout ça.
Ouais, ça doit être un petit peu avant, dans une année et demie avant.
Donc on pourrait
ça tourne autour du même pot, c'est entre 75 et 80 75-79 quoi.
Ouais. OK.
C'est là où j'avais du talent.
Donc on peut peut-être écouter le Earth Message, donc qui a été
repris par les
Chemicals sur Surrender, hein, si je ne me trompe pas, en 99.
Dans le titre God Glint.
On a toutes les infos comme ça. Et donc ça, c'était sur un album qui s'appelle Cosmos 2043. J'aurais bien aimé aussi écouter, il y avait un autre de vos
albums.
C'était
l'année de Mam.
On verra, on va pas présupposer. Mais il y a un autre dont le titre pouvait être marrant, c'était Special Disco de 2005. Ça aurait été marrant, je pense, de le réécouter.
Celui-là, je sais pas, c'est une compile apparemment.
Ah, c'est une compile,
ouais.
D'accord.
Apparemment, parce
autant
qu'il y a des titres d'autres personnes dans ce disque,
ouais.
que Gwen m'a fait découvrir, parce que lui aussi était persuadé d'un titre qui était dans cet album que j'aurais dû faire, non, mais c'était pas
mais
moi.
Non, c'était pas vous, ouais.
Voilà.
Ok, bon.
Donc, Bernard Fèvre sous son propre nom.
Voilà.
Avec Earth Message, samplé par les Chemical Brothers en 1999. Campus Paris, 93.9 FM, Fat Corner, l'interview de Bernard Fèvre va bientôt s'achever. Et juste après, sélection, nouveauté, tout ça, et mix reggae digital d'Out One à 23h. Connu donc les Chemical Brothers, leur morceau God's Gift, c'est ça?
Enfin, God Clint.
God Clint, bon bref.
Glint, là, c'était l'original.
C'est
voilà, on a reconnu Bernard Fèvre, donc le morceau original qui s'appelle Earth Message. On va écouter un autre morceau issu d'un de vos disques d'illustration sonore. C'est le titre, Sam?
Alors l'album s'appelle The Strange World of Bernard Fèvre, hein. Cette fois-ci c'est carrément
sorti chez Eddie
votre...
Warner, qui était un garçon charmant qui n'a jamais co-signé avec moi.
D'accord. c'est comme ça c'est dit.
Et alors, un garçon, un homme charmant.
Moi j'ai sélectionné le morceau Savannah Melody.
Bon, moi,
un parmi d'autres, hein. Peut-être dans un style plus...
mélopé.
Oui, voilà, exactement. Plus mélodique. Moi, ça me fait notamment penser à... Enfin, je trouve que ça ressemble beaucoup à du R, à ce que font aujourd'hui R. Je sais pas si...
R ressemble beaucoup. Enfin,
ils m'ont tout piqué. Ils m'ont tout piqué.
Parce que R est quand même très inspiré, non, mais précisément de cette musique.
Bien sûr, de ces années-là, etc. Donc, il n'y a pas...
Non, mais il fallait bien qu'il y ait des gens qui retombent dans...
Qu'est-ce qui intéresse ?
Comment on peut dire, dans le même pot.
Ouais.
Hein, c'est peut-être pas très élégant.
non, mais c'est
dire comme
c'est
ça.
C'est compréhensible.
Non, mais même vert, disons.
Est-ce que vous, enfin, est-ce que R a cet album? Est-ce qu'ils l'ont écouté? Est-ce que vous avez
ça? Alors ça, aucune idée. Non, mais je pense qu'on peut avoir des influences qui viennent
sans avoir écouté le même album. Bien sûr,
ouais. Qui viennent dans l'air.
Ok.
C'est les oiseaux qui apportent.
Bon, on se dit au revoir sur ce dernier morceau.
Merci beaucoup Bernard Fèvre.
Ben non,
merci.
C'est moi, ça fait plaisir.
Flatté.
Ça fait plaisir d'être avec des jeunes.
Oh ben, j'imagine.
Vous en êtes un vous-même. Hein, je pense qu'on peut le dire. J'ai lu sur un forum internet quelqu'un qui allait voir un de vos concerts et qui disait oui, il a encore l'air très très jeune. Donc j'étais.
Bah, c'est gentil. Moi, je me soigne parce que faut faire attention quand même. Oui. Oh, et puis j'ai un môme qui a 13 ans, il ne faudrait pas qu'il pense que je suis son grand-père.
Il oh ben, y a très peu de grands-pères qui passent au Bataclan, hein, quand même. Hein.
Ça va venir, vous allez voir.
Vous marquez des bons points, là, quand même.
Bien, bon, de toute façon, en ce moment, les Rolling Stones, enfin, je regardais dans le métro, je dis,
oui, c'est vrai,
je
oui,
dis
oui,
à mon fils, il n'y a plus que des vieux partout.
En tout cas, cette émission sera disponible en podcast sur www.radiocampusparis.org. On se retrouve là, juste après, en fait, avec l'émission Fat Corner normale, disons, et avec trois autres animateurs jeunes et virils et fougueux. Merci beaucoup, Bernard Fèvre.
Non, c'est moi.
Merci.
Encore, et puis bonne soirée. Et puis, Bataclan, on rappelle, 2 février.
Ok, venez-moi.
93.9, c'était Fat Corner. On arrive, on revient tout de suite.